On va en parler.
Allez, on va parler donc de sports cousins dans l'état d'esprit, Jean-Michel. Hein, la pelote basse et le rugby. Hein.
Ah, bah oui, mais c'est, ce sont des sports dits régionaux à la base, mais qui commencent quand même à être connus, notamment pour le rugby, puisque avec la dernière Coupe du Monde, on a vu un petit peu l'enthousiasme qu'il a pu y avoir autour de cette Coupe du Monde. Mais la pelote basse, pourquoi pas? Pourquoi pas? On voit déjà à Paris pas mal de gens qui tapent la pelote et qui se font plaisir. Sur les frontons, mais pas qu'à Paris. Il y a des frontons en France. Hein, il y en a plus qu'on ne pense. Ah oui, et les gens tapent la pelote. Bon, leur pelote à eux. Hein, mais par contre, je pense qu'avec M. Goynetch, on va pouvoir développer tout ça. Mais c'est vrai que ce sont des sports au départ régionaux et traditionnels du Sud-Ouest. Quoi.
Alors, M. Goynetch, pour faire la transition avec le ballon ovale, on s'arrête de jouer à la pelote pour suivre chez vous, sur écran géant, les grands matchs
voilà.
Pour rugby.
Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est que généralement, le premier sport que nous pratiquons chez nous, c'est la pelote.
Ouais.
Et puis, en grandissant, on va automatiquement vers le rugby.
Ouais.
Et quand on a fini de pratiquer le rugby, parce qu'on est, atteint par la limite d'âge, bien sûr, on revient
à la pelote.
C'est ce qui m'est arrivé, donc je peux en parler en deux phrases de cause.
D'accord, donc c'est bien deux sports très, très proches, très cousins.
Très proches. Mais c'est lié d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, on prend un joueur de rugby de chez nous, vous êtes sûr qu'il a joué à la pelote. Hein.
Ouais.
Et qu'après son rugby, il continuera à jouer. Parce que l'avantage de la pelote, c'est qu'on peut y jouer longtemps.
Ouais.
Moi, je connais des gens de plus de 70 ans qui jouent encore, qui jouent régulièrement à la pelote basque. Voilà.
Très bien. Et puis, en plus, Philippe, ce qu'il faut dire, mais ça, je pense que M. Goynetch va en parler tout à l'heure, il y a tellement de variétés de pelotes
en préparant l'émission.
Voilà, tout le monde peut y trouver son compte. Quoi. Et comme disait M. Goynetch, des gens qui ont 70 ans, eh ben, ils peuvent s'amuser encore à la pala. Hein.
Absolument. Comme vous avez des vétérans au tennis, pareil.
Très bien. Alors, on va parler donc naturellement du début du tournoi Destination. Hein. Hier, l'Irlande a battu l'Italie 16-11. Le Pays de Galles est allé s'imposer en Angleterre 26-19. Aujourd'hui, donc, effectivement, l'équipe de France en Écosse à partir de 16h contre l'Écosse, une équipe de France, j'allais dire, New Look. Jean-Michel, c'est un début de tournoi assez inédit quand même.
Mais hein, oui, mais
on ne sait pas trop où on va. Hein.
Mais c'est la magie du tournoi à destination, de toute façon. Il faut savoir que le tournoi à destination reste une compétition.
C'est le feuilleton d'hiver.
Voilà, c'est ça. C'est bon. Et on a assisté quand même hier à deux inédits. Hein. On a assisté à une équipe d'Italie qui a bousculé l'Irlande, notamment en seconde mi-temps. Et surtout, ça faisait 20 ans que les Gallois n'avaient pas battu les Anglais à Twickenham. Et hier, vous avez vu la seconde mi-temps époustouflante de ces Gallois. Et d'ailleurs, ça me fait dire qu'on ne comprend pas du tout les fondements de l'équipe anglaise, parce qu'elle s'est délitée au fil du temps. Et dans cette seconde mi-temps, on se demande ce qui s'est passé.
Oui.
On se demande ce qui s'est passé, et ça va être très très difficile pour l'entraîneur Brian Ashford, qui est déjà très très contesté depuis la dernière Coupe du Monde, mais avant aussi. Et là, ça va être très dur pour lui de remonter cette pente, parce que c'est très dur, ce qui s'est passé hier. C'est très dur pour lui, pour son équipe, c'est pour les spectateurs anglais qui sont des fidèles, ceux-là, les londoniens quand ils supportent leur équipe nationale, c'est quelque chose. C'est une passion phénoménale. Monsieur Goynetch.
Oui, je voulais dire simplement, rajouter, quand on a, au vu de la première mi-temps, on pensait que ces pauvres Gallois allaient être croqués et mangés.
C'est assis à la mi-temps, pour les Anglais.
Tout à fait. Puis dominé, il n'y avait rien à dire. Et puis, comme vous disiez très justement, la seconde mi-temps, le phénomène inverse. On a vu une équipe galloise avec la hargne, envie de gagner, avec un cœur énorme, et qui a conduit à la victoire du pays de Galles. J'en suis très heureux. En première mi-temps, nous avions les chants anglais. Eh bien, en seconde mi-temps, on n'entendait plus.
C'est vrai, mais ça s'est délité de partout. Quoi.
Absolument.
On a l'impression que cette équipe a perdu tous ses repères. Les spectateurs aussi, parce que c'était sidérant. Quoi, moi, je l'ai vu à la télévision, hein, comme tout le monde. J'étais pas sur place, mais il y avait des gros plans sur les tribunes. C'était catastrophique. Quoi.
Voilà. Alors, ce match d'aujourd'hui, ça se présente comment pour ceux pour cette équipe de France, new look, un nouvel entraîneur et puis beaucoup de changements.
Alors, écoute, cet après-midi, Philippe, on en saura davantage sur le devenir de cette équipe de France, inédite, tout au moins en partie. Alors, il faut savoir qu'il y a un staff inédit, une première ligne inédite, un ouvreur inédit, une seconde ligne inédite, un capitaine inédit. Ça fait beaucoup de choses quand même, ça fait énormément de choses. Alors on est dans l'expectative et on attend impatiemment 16 heures cet après-midi pour savoir ce qui va... Mais commençons par le staff. Marc Lièvremont, déjà une grosse surprise, malgré que. Oui. Malgré que. Mais c'est déjà une grosse surprise. Émile Ntamack. Bon, lui, il a à son actif un titre de champion du monde des jeunes. C'est peut-être qu'une demi-surprise. Mais Didier Rétière, l'entraîneur des avants, qui sort enfin de l'ombre. Quel technicien, ce gars-là. Quel technicien. La mêlée, il en connaît toutes les ficelles. Sa culture, c'est la première ligne. Et cette culture va nous entraîner dans un monde très particulier. Et comme disait Jaco Furux, no scrum, no win, c'est-à-dire sans mêlée, ouais, pas de victoire. Et là, on va s'apercevoir effectivement qu'un technicien de la valeur de Didier Rétière va peut-être nous amener dans un autre monde. J'espère, mais il a une telle réputation derrière lui, pas pour le grand public, il était complètement inconnu, mais pour le milieu du rugby, il est considéré comme une compétence énorme. Bien, alors ce staff aussi a d'autres prétentions, Philippe, que son prédécesseur. Il faut savoir Marc Lièvremont souhaite un jeu beaucoup plus libéré, beaucoup plus ouvert, en un mot, plus français. Et il veut retrouver ce jeu à la française qui nous a tellement...
Qu'on a recours proche au mondial, quoi.
Ben exactement, c'est un jeu qui... tiens, le jeu contre les Blacks. Voilà, bon. Et pourtant, les consignes n'étaient pas celles qui n'ont pas été appliquées à la lettre. Parce que si. Et c'est justement pour ça, parce que les consignes n'ont pas été respectées à la lettre, qu'on a eu un tel match. Bon. Mais enfin, il ne faut pas tirer à boulet rouge sur Bernard Laporte. Hein. Il ne faut surtout pas tirer à boulet rouge parce que en 8 ans.
C'est un des meilleurs palmarès niveau résultat. C'est un des meilleurs.
C'est un très très bon palmarès. Ouais. C'est un très très bon palmarès. Et puis je pense qu'il a, il a fédéré autour de lui tout un staff qui aujourd'hui va en tirer tous les bénéfices, à mon avis. Bon, malgré que le staff ait été renouvelé, hein,
oui,
le Twib n'est plus là, le Kiné n'est plus
sauf
là.
Sauf l'incontournable Jo Mazo.
Sauf l'incontournable Jo Mazo. Et puis l'intendant, Didelot, qui lui est immuable. Et Lionel Rossigneux, qui est l'attaché de presse. Bon. Alors, comme dit, bien sûr, c'est un jeu à risque. Hein. Le jeu que préconise Marc Lièvremont, c'est un jeu à risque. Mais c'est ce qui plaît à Lièvremont quelque part. Hein. Il a toujours, du temps où il était joueur, il a toujours pris des risques. Et c'est ce qui a fait peut-être un petit peu sa valeur. Et bon, mais comme dirait l'autre, hein, voyons
c'est son
voir.
Choix, c'est son choix.
Voyons voir. Alors quand on regarde le banc aussi, on se dit qu'il faut être assez gonflé pour se passer des Arzelski, Rougerie, Bonner, Skrela, etc. Donc c'est riche. On a un vivier, un effectif très riche en France. Donc on a cette chance-là, ce que n'ont pas les Italiens par exemple, parce que les Italiens derrière cette équipe, il y a plus personne. C'est-à-dire que dès que cette génération d'Italiens ne sera plus là, il y a plus personne derrière. Parce qu'ils n'ont pas ce vivier, ils n'ont pas cette culture rugby qu'ont les Français. Donc, ça laisse augurer quand même beaucoup d'optimisme. Et je voudrais dire aussi une chose, c'est que faut pas prendre le tournoi Destination pour un laboratoire. Que pour un laboratoire. Le tournoi Destination, c'est, comme tu disais tout à l'heure en préambule, c'est la fête du rugby français. C'est à ce seul moment qu'on peut se mesurer d'une façon internationale. Donc, il faut bien sûr s'en servir comme laboratoire. Bien sûr, Lièvremont a construit son équipe en fonction de 2011. il faut pas se leurrer, parce que il y a quand même des gens qui ont une certaine bouteille pour le moment et qui ne sont pas éternels. Donc et surtout en première ligne, parce que les même si comment il s'appelle notre ami revient, Marconnet, ouais, revient, même s'il revient, il a quand même de la bouteille. De Villiers, ah oui,
depuis 30 ans,
ouais. De Villiers n'est plus ce qu'il était. Donc il faut il faut renouveler les cadres et puis
109, oui.
Voilà, donc moi il me tarde cet après-midi de voir les Brugnon, cette première ligne.
Trinduc, hein, je crois, Trinduc aussi. Hein.
Trinduc à l'ouverture.
À l'ouverture.
Mais surtout devant, Brugnon, Serva, Fort, je les attends au tournant. Mm-hmm. Parce que c'est là que se gagne le match. Hein. Mm-hmm. C'est là que se gagne le match.
Donc c'est pas un match piège.
Je pense pas, mais il faut observer. Il faut observer. Mm-hmm. Parce que est-ce que les jeunes vont jouer complètement libérés? Si on les a mis en confiance, oui, mais la première sélection en équipe de France, on n'est pas toujours, on cherche ses repères, quoi. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur Gaïenetch, qui avait joué au rugby, vous aussi.
Oui. Mais je voudrais simplement rappeler quand même que pour moi, cette équipe d'Écosse est la plus faible.
Ah oui, absolument.
Donc c'était le moment peut-être d'essayer des nouveaux, des jeunes, comme le 109, comme nous disions. Et puis on verra bien, parce que si mes souvenirs sont bons, les Écossais sont allés perdre en Italie.
Oui, l'année dernière.
Les Italiens font des progrès, c'est vrai, mais pour moi, les Écossais restent les plus faibles.
Ah oui, absolument.
Alors c'était le moment de les essayer. On en reparlera certainement tout à l'heure, parce que c'est à 16h, je crois.
Oui, 16h.
À 16h. Bon, on verra. Là,
à 17h30, on verra.
Ce sera le moment de vérité.
Exactement.
Voilà. Mm-hmm. Et puis je voudrais dire aussi simplement, par rapport à... Moi, je parle toujours comme un ancien, là. Mais il faut voir maintenant que les joueurs sont réunis, ils ont Marcoussi, ils sont tous entre eux. Des fois, ils y passent 10 jours, 3 semaines, ça dépend. C'est plus comme avant, où on se réunissait l'avant-veille.
Absolument.
Vous avez connu ça, l'avant-veille. On se retrouvait l'avant-veille et puis on jouait.
Au Château Ricard.
Exactement.
Alors, il y a une petite chose aussi qu'il faut souligner, c'est que l'ambiance a complètement changé à Marcoussi. Mm-hmm. C'est-à-dire que les joueurs peuvent...
Ils s'entraînent plus beaucoup, je crois. J'ai entendu cette semaine qu'ils ne s'entraînaient pas trop.
Je pense que là, c'est...
Moins qu'avec...
Oui, non, mais ils n'ont eu qu'une semaine de préparation. Je parle de l'ambiance autour de... Bon, ça fait moins forteresse. Mm-hmm. Les joueurs ont accès à la presse.
Oui,
ce qui n'existait pas. D'ailleurs, à ce sujet, la maison de la presse de Marcoussi a été complètement dévalisée sur la presse spécialisée, et tout ça pour le centre de Marcoussi.
D'accord.
Donc, les joueurs sont moins...
moins tendus, moins stressés.
Voilà. Alors, ça fait partie de cette espèce de libération dont parle Marc Lièvremont. Il veut une libération des joueurs, mais ça commence aussi par l'avant-match. Et c'est une libération générale qu'il faut. Et qui débouche sur une libération sur le terrain.
Bien sûr. Et il leur a promis, je crois, une journée de repos durant les entraînements, avec un entraînement un peu moins poussé, moins pointu. Hein.
Ouais, ce qui n'existait pas du temps de Laporte, où c'était toujours intense. Mais bon, chaque entraîneur sa manière. Sinon,
il sera jugé sur les résultats.
Exactement. Si on prend 20 entraîneurs de sélection internationale, on va trouver 20 personnalités différentes. Voyons et apprécions ce qui s'est passé avec l'arrivée de Nick Mallett au niveau italien. Et puis, et pourtant, Berbizier, c'est pas quand même un manche, quoi. Hein. Mm-hmm. Mais l'arrivée de Nick Mallett a apporté autre chose. Un autre jeu, une autre dimension, une façon de s'exprimer, notamment devant, puisqu'il connaît parfaitement bien le rugby de l'hémisphère nord.
Il est entraîneur du Stade français.
Ouais, il le connaît par cœur, ce rugby-là. Donc il sait qu'est-ce qu'il faut mettre en avant. Je suis persuadé qu'il n'a pas tenu le même langage quand il était à la tête de l'équipe de Sud-Afrique.
Certainement, oui.
Que, avec les Italiens. Donc chacun a sa personnalité, chacun s'adapte à la.
La psychologie de l'entraîneur, c'est ça.
Voilà. Il y a son tempérament.
Voilà, exactement. Et puis ça.
Les Latins, on joue différemment que les gens de l'hémisphère sud. Hein.
Et tout à fait.
Il y a beaucoup plus d'improvisation pour nous. Ils sont beaucoup plus stéréotypés. Il suffit de regarder les anglo-saxons, c'est pareil. Hein.
Ouais. Un dernier petit mot, le championnat en même temps que le tournoi, c'est pas un peu banaliser le tournoi? Je sais bien qu'il y a des problèmes de calendrier.
Oui et non. Bon, là, il faut quand même rentrer dans la dimension du professionnalisme. Hein. Je crois que il est nécessaire quand même. Le rugby international et le rugby professionnel, notamment pour la France, passent par les clubs. L'équipe de France n'est qu'un aboutissement, mais ça passe, l'éducation passe par les clubs. Et il ne faut surtout pas, pendant le tournoi de destination, qui dure quand même plusieurs semaines, laisser de côté le top 14. Bien sûr que ça fausse.
Donc on ne doit pas s'arrêter de jouer.
Non, non. À mon avis,
en top 14, les week-ends de tournoi comme avant, quoi.
Non, non. C'est mon avis. Hein.
C'est vrai que les clubs comme le Stade français, le Stade toulousain, qui apportent le plus de joueurs à l'équipe de France, c'est vrai que ceux-là, malheureusement, il faut le dire, sont handicapés.
Oui, enfin. Ah, si. Ils font quand même. Il y a des clubs qui aimeraient encore avoir le banc qu'ils ont.
Non, non, attendez. Oui, Stade Toulousain. Qui à part le Stade Toulousain, vous savez.
Le Stade Toulousain.
Stade Toulousain, il a deux équipes. Hein. Ouais. Ouais. Et il suffit de regarder hier ce qu'ils ont fait. Hein. Mais autrement, non, non. Je suis très content que le championnat continue, même pendant le tournoi. Mais.
Bien sûr, parce que ça permet. Mets-toi à la place des entraîneurs qui travaillent toute une saison et quelquefois deux, trois saisons avant pour préparer leur championnat. Ils ne peuvent pas se permettre de stopper pendant le tournoi de destination. Il faut que ça continue. Il faut que ça continue et ne serait-ce que pour l'éducation des joueurs. C'est ça le professionnalisme aussi. Hein.
Mm-hmm. Voilà, c'est très juste. À partir du moment où ils sont professionnels, il suffit de regarder le football, tous les sports professionnels. Hein. Ils jouent tous les deux, trois jours. Bon, le rugby, c'est un peu plus difficile.
Ouais. Ouais, mais on aurait du mal en foot à imaginer une journée de championnat pendant un match de l'équipe de France. Quoi.
Pourquoi?
Oui, c'est jamais arrivé, mais bon.
Pourquoi?
Il faut poser la question à la Fédération française.
C'est jamais arrivé. Et pourtant, les calendriers sont aussi serrés que pour le rugby. Hein. Ouais. Mais enfin, on n'a jamais joué une journée de Ligue 1 en même temps que le match de l'équipe de France.
Nous, on a 14 clubs, un tour 14, et eux, ils en ont 20. Hein.
Ouais. Mm-hmm. Voilà, ok. Bon, la suite de la semaine prochaine, Jean-Michel.
Hein, ben oui. Hein,
L'Irlande la semaine prochaine.
L'Irlande la semaine prochaine, qui m'a paru un peu palichotte. Hein, qui m'a paru un peu palichotte face à des Italiens, certes, en pleine possession de leurs moyens. Enfin, oui, en pleine possession de leurs moyens. Peut-être c'est un petit peu trop récent, la collaboration de Nick Mallette et de l'équipe. Mais je pense qu'on va en reparler. On va en reparler d'ici la fin de la saison.
Ils reçoivent qui, les Italiens, chez eux, là?
Alors, ils vont recevoir le Pays de Galles, ils vont recevoir l'Angleterre, et...
Voilà, c'est tout, je crois.
C'est tout. C'est tout. Une année sur deux, une année, c'est deux.
Voilà, comme cette année,
comme nous.
Comme pour la France.
On reçoit trois fois cette année, nous, on se déplace.
Mais l'Italie aussi. Voilà. Irlande, Angleterre, Italie.
Voilà.
Et les Irlandais viennent la semaine prochaine au Stade de France.
Voilà. Alors justement, la semaine prochaine, il y a France-Irlande au Stade de France. En même temps, vous avez Open.
Nous avons le fameux Open national de pelote basque.
Alors, ça va se passer comment?
Alors, déjà, ça va se passer sur les quais de Seine, là-bas, au 8 quai Saint-Exupéry, dans le 16e arrondissement, vers la Porte Saint-Cloud. Et puis, nous allons donc, sur trois jours, nous allons recevoir... tous les quatre ans, nous avons un champion du monde. Les derniers championnats du monde ont eu lieu au Mexique, à Mexico, en 2006.
Et en 2011, à Pau, je crois.
Tout à fait. Alors, j'allais en parler en 2010.
En 2010,
oui. En 2010, les champions du monde se feront à Pau. Pau, avec les villes d'Oloron et de Lescar.
Lescar, c'est
à côté de Pau. Mais Pau a construit un complexe superbe, ce sera très intéressant de voir. Mais alors, je voulais dire que la semaine prochaine, donc les 7, 8 et 9, nous avons l'Open International de Pelote Basque, où nous avons invité tous les champions du monde.
Ah oui, rien que ça.
De chaque spécialité.
Mmh. Ouais.
Donc à main nue, vous avez, ce sont les Mexicains, c'est les Mexicains qui sont là. Ouais. Il y a deux autres équipes, qui, parce qu'on fait les demi-finales et les finales.
D'accord.
À Baline, Gomme Creuse, on a les Argentins. Mmh. À Palette à Cuir, nous avons aussi des Argentins, mais il y a l'Espagne et la France aussi, hein, qui sont médailles d'argent. Un coup, bon, la dernière fois au championnat du monde, la France était médaille d'argent. Et puis nous avons le chalet, qui est une espèce de raquette, comme une raquette de tennis, mais avec un filet à l'intérieur, où là, les Français brillent et sont généralement souvent médailles d'or. Au dernier championnat du monde, la France avait deux médailles d'or pour 6 médailles d'argent. Voilà.
Et alors, c'est étalé sur 2 jours le...
Trois jours.
Alors, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche.
Toujours, on s'adosse toujours sur un match international.
Ouais.
Donc là, ce sera à l'occasion, en cette circonstance, ce sera le France-Irlande.
Ouais.
Voilà. Alors, pendant ces 3 jours, vous avez, on aura à partir de 13h les demi-finales le jeudi, de 13h à 16h. Ensuite, il y a une coupure, et puis de 18h à 21h.
Ouais.
Alors bon, comme chez nous dans le Sud-Ouest, il y a le repas traditionnel après sous chapiteau, avec animation, orchestre et foule la rouge et tout.
D'accord.
Alors la même chose pour le vendredi, ça commence à 13h, et on aura droit en fin d'après-midi à 2 finales, la finale de Gomme Creuse et finale de Chalet. Et puis le samedi, nous aurons... Parce que, exceptionnellement, cette année, je rappelle que France-Irlande a lieu à 17h, et non à 15h, ce qui fait qu'il a fallu qu'on modifie notre heure de finale, ce qui fait qu'on aura la première finale qui se fera à 11h le samedi matin, c'est la finale de main nue. Ensuite, les gens, ils font ce qu'ils veulent, ils vont regarder le match ou ils vont au match, et ensuite, la deuxième finale se fera à 20h.
D'accord.
Suivi d'un repas évidemment sous chapiteau, où il y a 700-800 personnes, et animé évidemment, voilà, on se retrouve un petit peu avec l'ambiance du Sud-Ouest.
Voilà. D'accord, ok. Il y aura beaucoup de monde hein, dans le périmètre là, parce qu'il y a le tennis à Coubertin qui est pas loin, voilà, il y a PSG Le Mans au parc.
Tout à fait, tout à fait. Donc,
là, dans le périmètre.
Tout à fait.
Mais il faut rappeler qu'au Trinquet, durant la Coupe du Monde, il y a eu 8 ou 9 représentations des matchs sur écran géant.
Voilà.
Et ça fait.
On avait fait une. Pour la Coupe du Monde, on avait aménagé différemment et on avait mis un petit peu les écrans un peu partout, de façon que l'on puisse retransmettre tous les matchs avec un immense un chapiteau avec un parquet où les gens pouvaient manger et regarder le match. Voilà.
Et faire la fête.
Et faire la fête, évidemment. Mais là, ça a été démonté. Maintenant, on l'a fait uniquement, on l'avait fait pour la Coupe du Monde de rugby. Voilà.
Alors, cette Ligue d'Île-de-France de pelote basque, elle recense combien de clubs?
Nous avons 18 clubs ou associations. La Ligue Île-de-France pelote basque, c'est à peu près un millier de licenciés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes qui.
On a à peu près 30%
de jeunes. 30%
de jeunes. Par contre, on a 8 écoles de pelote. Ce qui fait donc qu'on a des scolaires qui viennent, on leur apprend déjà tout Poussin, à Poussin déjà, on leur apprend à jouer, à tenir une raquette ou un instrument quelconque. Et ce qui fait qu'après, je rappelle quand même qu'on a un championnat fédéral de Poussin hein, en France. Hein.
D'accord.
Voilà, donc on les intéresse aussi, on a le championnat de Ligue et le championnat de France.
Et par rapport au reste de la France, vous vous situez comment en effectif? Je ne parle pas du Pays Basque. Hein.
Non, la Fédération française compte 19 000 licenciés.
Combien?
19 000.
Ouais.
Pas beaucoup, hein.
Ouais.
Mais bon, c'est tellement.
Ouais.
Comment dirais-je, ça se fait dans le Grand Sud-Ouest surtout.
Ouais, ouais.
19 000 licenciés, mais nous avons quand même 50 à 60 000 pratiquants.
Ouais.
Hein, parce que qui dit licencié dit généralement les gens qui voudraient faire un peu de compétition. Mais ça ne vous empêche pas de jouer à la pelote basque sans avoir de licence. Hein, bon, voilà.
Oui, parce qu'il faut dire que dans beaucoup de petits patelins du Sud-Ouest, prenons le Gers par exemple, il doit y avoir 7 à 8 frontons.
Des frontons.
Dans le Gers. Donc là, on n'a pas besoin de licence. Là on va jouer à main nue, on va jouer avec à la pala, et puis, mais ça, il y a beaucoup de monde qui joue. Hein.
Oui.
Il faut pas.
L'île de la Réunion, je crois. Hein, vous m'avez dit alors, juste avant l'antenne qu'on jouait à la pelote basque.
Bien sûr, c'est une ligue d'ailleurs.
Oui.
C'est une ligue de l'océan Indien là-bas, l'île de la Réunion. Je rappelle quand même l'île Réunion à trois trinquets murs à gauche, dont un à Sillaos, Ouais. Vous en avez un à Saint-Leu, pour ceux qui connaissent la Réunion, et vous en avez un dans un quartier de Saint-Denis qui s'appelle le Chaudron.
D'accord.
Où sont sortis tous nos... Ils ont été pendant 2 ou 3 ans champions de France, à une spécialité qui est la palette à cuire.
Ah d'accord. Mmh.
Et maintenant, eh bien, ces jeunes-là représentent la France à Mexico. Il y avait deux jeunes de la Réunion qui étaient... Non, il y a une très très bonne école. Et là, je salue mon ami Francis, qui est le président de la Ligue... de la Ligue de la Réunion.
D'accord.
Mais il n'y a pas que la Réunion, vous avez Saint-Pierre-et-Miquelon aussi. Hein. C'est pas difficile, mais les Français ont migré à Saint-Pierre-et-Miquelon, les pêcheurs. Mmh. Aux USA, vous avez toute une colonie en Californie. À la Réunion, c'est tout simple. Hein.
D'accord, ce sont des gens, oui, c'est ça. C'est
les Basques sont partout.
C'est ça.
Voilà, les Basques en général, ouais. Que ce soit du Nord ou du Sud. Hein.
Ouais.
C'est pour ça qu'on retrouve toutes ces spécialités, la plotte basque, dans les pays Amérique latine.
Alors justement, bon, on vous entend parler de mur à gauche, de mur à droite, voilà. De fronton, de trinquet. Pour le grand public, pour l'auditeur... Alors,
voilà, je vais vous dire, pour l'auditeur, c'est ça notre problème justement.
Ah oui.
C'est que nous avons 14 spécialités, alors vous savez, et avec 4 aires de jeu différentes. Alors vous avez la première, le trinquet, que beaucoup de gens connaissent, ça se passe à l'intérieur. Vous avez les quatre murs et une planche sur le côté gauche. Ça, c'est un trinquet. Ça fait à peu près 30 mètres de long. Ensuite, vous avez la même chose couvert, mais là, vous n'avez pas de planche. Vous avez le mur de face, le mur latéral de gauche et le mur arrière.
D'accord.
Deux dimensions, 30 mètres et 36 mètres. Donc, avec un 36 mètres, vous avez les parois mobiles, maintenant, vous pouvez transformer en 30 mètres. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le rail à l'ail, la sesta punta, où les professionnels jouent généralement en Floride, à Miami, un peu partout, là-bas, à Tampa. Donc les bons joueurs d'ici signent des contrats avec des... ils ont des impresarios qui viennent ici, côté français, les faire signer, puis ils vont jouer. Et ils jouent au football, comme les footballeurs, eux, ils jouent à la pelote tous les jours. Voilà. Mmh. Voilà. Alors ça, c'est les aires de jeu, et chaque fois, des spécialités différentes.
C'est ça. Alors, on se spécialise très tôt, très jeune. Quand on commence la pelote basse, qu'est-ce qu'on choisit sa spécialité très tôt?
Écoutez, déjà, on fait toucher un petit peu à tout, aux enfants, et puis l'entraîneur, il voit à peu près s'il est plus à l'aise dans tel instrument que dans d'autres. Et puis après, une fois qu'on a passé le cap de poussin, un minime, calé, déjà, il faut se spécialiser. On peut pas toucher à tout. Là, à partir de ce moment-là, où l'entraîneur voit qu'il est un peu plus doué pour un instrument plutôt que d'autres, c'est le moment de le diriger.
C'est comme ça que j'ai pratiqué. C'est fini, quoi.
Comment?
On peut plus en changer.
Bien sûr que si, vous pouvez changer. Mais bien sûr.
Oui.
Il n'y a aucun problème.
On peut faire des doubles carrières.
Oui, parce que oui, tout à fait. Vous pouvez faire double carrière.
Mais c'est dommage de perdre l'acquis, si tu veux. L'acquis de départ, c'est dommage de le perdre aussi.
Vous pouvez être bon dans plusieurs spécialités, mais jamais très bon. Alors que si vous vous spécialisez, vous pouvez être très bon.
D'accord. Voilà. Okay. Avec des championnats donc particuliers dans chaque spécialité.
Dans chaque spécialité, vous avez un champion de France.
D'accord.
Voilà. Et puis je rappelle que tous les 4 ans, vous avez un champion du monde. On a à peu près 14 nations de représentées.
On gagne bien sa vie en pelote basque?
Non.
À haut niveau, à haut niveau, on est obligé carrément de partir ou...
Non. Attendez, il n'y a pas très longtemps, il y a un décret qui était passé, on a été aidé à l'époque par Michel Alliou-Marie, qui est le ministre de l'Intérieur maintenant, qui nous a aidé, et un décret est passé, on peut parier sur les jeux. Chose qui était interdite avant. Mais pour ce faire, il a fallu qu'on soit raccordé à la France Gallo. France Gallo.
Ah bon?
Et oui, parce que c'est les seuls qui sont autorisés, où les paris sont autorisés. En France, c'est interdit autrement. Donc, à Pau, quand ils ont créé ce nouveau complexe, il y a les professionnels de César Punta, on a voulu imiter les Américains. Hein. Et donc, ils jouent tous les week-ends, et vous pariez sur un joueur, ou deux joueurs, suivant qu'ils jouent en simple. On ne dit pas en simple, nous, on dit en tête-à-tête, ça s'appelle une quiniela, en réalité. En simple ou en double, ou deux contre deux, voilà.
D'accord. Et alors, c'est un sport très technique, très physique
très physique, bien sûr.
Il y a une énorme dépense physique, fatalement.
Tout à fait. Alors, le plus difficile, c'est la main nue, bien sûr. La main nue, vous jouez avec une balle dure, et puis, vous voyez, sur 30 mètres, avec une planche, vous voyez que ça... Mais je vais vous dire, l'idéal, mais venez nous voir. C'est la semaine prochaine. Vous venez jeudi 7, ça commence la main nue. Venez voir et vous verrez que c'est passionnant à regarder. Et vous pouvez essayer d'ailleurs, on pourra vous faire d'ailleurs essayer. Vous allez voir.
Manu Cesta Punta, ce sont les plus connus, les plus célèbres.
Non, je ne sais pas. Pourquoi Punta? Parce que c'est très spectaculaire. Mm-hmm. Et l'été, je sais que tous les gens qui viennent sur la côte basque, même côte landaise, à Cabreton, en Segor, vous avez des réalailles. Donc c'est quand même très agréable à voir jouer. Bon, voilà. Mais autrement, moi qui suis originaire de là-bas, mon sport préféré, c'est rester la main nue. C'est le sport de base. Hein.
Mm-hmm. Et il y a des clubs qui s'orientent vers telle ou telle spécialité?
Généralement, tous les clubs, généralement, on fait tout. On fait un petit tour des spécialités. Mais il y en a qui sont plus portés que d'autres. Et je pense en particulier, puisque moi je suis de Saint-Lambieu-de-Port, je parle de Saint-Lambieu-de-Port, la Goïsé-Goïsara, qui est le club là-bas, où très longtemps, c'est la main nue qui a dominé. Ah. Et depuis, les instruments sont entrés. Saint-Étienne Bayouri, qui est à côté, qui maintenant domine à main nue, eux aussi jouent à d'autres instruments. Mais les jeunes, il faut les faire jouer un petit peu à tout. Hein. Mm. Tout le monde n'est pas doué pour jouer à la main nue. Parce que vous savez, les mains, c'est fragile. Hein.
Bien sûr.
Alors, pour revenir un petit peu sur la Cesta Punta, pourquoi c'est... Bon, il y a un petit côté folklore aussi. Bon, il y a le matériel utilisé, c'est déjà folklorique pour le commun des mortels.
Pourquoi vous dites folklorique?
C'est parce que le
panier à nosier, là, la chistera.
La chistera. Bon, ça reste quand même un matériel qui n'est pas très connu, quoi, qui n'est pas très connu par le commun des mortels. Il y a le côté habillement aussi.
Toujours en blanc
avec la ceinture rouge.
C'est-à-dire, on a rajouté ça depuis, hein, mais bon, la ceinture rouge est pour un camp et la ceinture verte pour l'autre camp, c'est pour les différencier. Hein.
Oui, bien sûr.
Souvent en blanc, on ne connaît pas les joueurs. Avant, ils portaient un petit ruban sur l'épaule. Après, depuis, on met des cintas, ce qu'on appelle.
Mais tout ça fait partie du spectacle aussi. Parce que c'est très spectaculaire.
C'est très traditionnel, la pelote basque. Il faut quand même voir, parce que quand vous voyez, vous avez des parties de pelote qui se font, mais à midi, on arrête pour chanter l'Angélus.
Oui, absolument.
On arrête la partie, et ça se joue, c'est l'été, en plein air.
Ouais.
À midi, on arrête pour chanter l'Angélus.
Mmh.
Et on reprend ensuite. Mais c'est traditionnel, donc on essaie de respecter les traditions.
Donc vous avez parlé d'une tenue, il y a une tenue stricte, réglementaire, blanche. Pour toutes les spécialités. Hein.
Toutes les spécialités.
Mmh. Oui.
Blanche, mais maintenant dans nos spécialités, on y a rajouté le casque et les lunettes.
Excellent.
Ça c'est une question de sécurité.
Ça va la vitesse, le bal?
Vous avez des balles qui vont à 200-300 à l'heure.
300
à
l'heure.
Alors c'est pour ça que vous avez intérêt, surtout dans des aires de jeu fermées, ils portent des casques et des lunettes de protection, parce que...
Bien sûr. Et donc le public, lui, il est comment? Bruyant, calme,
le public, à partir du moment, vous savez, c'est un peu comme au rugby, mais à partir du moment où il a pris position pour une équipe, il défend son équipe, c'est normal.
Il y a des clubs de supporters,
c'est
pareil,
comme partout.
Non, parce qu'il peut beaucoup y avoir de curieux aussi qui viennent.
Ah, bien, il y a des curieux qui viennent. Alors, ceux qui vont en vacances, généralement, dans le sud-ouest, quand ils reviennent, ils sont très contents de savoir qu'à Paris, on pratique.
Ouais.
Alors, on a un superbe fronton où l'été, on a fait venir à l'époque les grands joueurs. Maintenant, si on les fait venir, chaque année, on a la finale des professionnels de Chistera.
Mm-hmm.
En septembre, cette année, ce sera le 16 septembre, puisque ça a été déjà fixé. 16 septembre, vous avez les meilleurs joueurs professionnels. C'est la finale, se fait à Paris. L'an dernier, on avait à peu près 600 personnes, c'était magnifique.
Mm-hmm.
Ça se passe en septembre, parce que ça, ce sont des jeux qui se pratiquent en plein air, donc se font l'été.
Mm-hmm. Ça se passe comment, un match? Un décompte de points?
Alors, c'est chanté, suivant la spécialité, point par point. En 40 points ou en 50,
40 points.
Ou en 30, ça dépend de la spécialité. Et puis vous avez une spécialité qui s'appelle le robot, qui se compte comme au tennis. 15, 30, 40.
D'accord.
Mais au lieu d'avoir avantage, nous on revient à 30, ça revient même. Hein.
Oh, ouais.
au lieu de dire 40 ans et avantage,
il y a 30,
on revient à 30, voilà, c'est tout. Ça se compte de la même manière. Et nous, en plusieurs jeux, ça se joue en 13 jeux.
D'accord. Donc ce sont des matchs qui peuvent durer très très, très longtemps, quoi.
Celui que je viens de vous dire s'appelle le robot. Ouais. Dans toutes les ouvertures de fêtes ou quoi que ce soit, le matin à 10h30, il y a cette fameuse partie de robot. Avec à midi, si ça va jusqu'à midi, vous dépasse midi, avec on chante l'Angélus. Le robot dure jusqu'à 2h30, 3h. Mmh. On se renvoie la balle d'un camp à l'autre. Et on joue pas sur un fronton.
D'accord. Alors vous parliez des clubs. Dans notre région, il y a de bons clubs. Notre, quand même, voilà, hein. Massy, Antony, vous m'avez parlé.
Voilà, alors ici, dans le sud,
pour ceux qui veulent s'initier.
Voilà, dans le sud, je voudrais rappeler que vous avez un club à Savigny, vous avez un club à la Croix de Berny, vous avez un club à Massy-Palaiseau, vous avez un club à Châtillon, vous avez un club à la Croix de Berny, c'est l'US Métro, hein. Et puis ensuite vers le nord, vous avez Saint-Brice, vous avez Levallois. Et puis sur Paris, vous avez sur le site même 8 Quai Saint-Exupéry, vous avez Pilotari. Je rappelle toujours que nous avons les écoles de pelote, l'école de pelote pour les scolaires qui fonctionne tous les mercredis de 14h à 18h. Et puis vous avez à Paris 13, vous avez dans le 15e 8 rue de la Cavalerie, au 7e étage. Alors là, c'est la particularité de voir, à ce 7e étage, vous avez quand même un trinquet et un tennis. Et le restaurant au-dessus, ça a été construit en 1929. Ouf. Et quand vous regardez les premiers adhérents, ce sont tous des Argentins, des Uruguayens ou des Chiliens, profession ambassadeur ou travaillant à l'ambassade, rentier. Allez, non, mais c'est fou, quoi. Alors donc, ils ont reconstitué leur club privé qui existe actuellement à Buenos Aires, vous retrouvez les mêmes choses, avec le trinquet, le tennis et le restaurant. Depuis, nous, depuis 29, le trinquet est parti à un propriétaire, le tennis à un autre propriétaire, et le restaurant à un autre propriétaire. Mais très longtemps, ces dames étaient interdites.
Ah, d'accord. Ça, c'est aussi dans la culture de...
Ah oui, mais quand vous allez en Amérique latine, les femmes ne sont pas de mise.
C'est un sport très, très sud-américain, très, très populaire là-bas, on aime ça.
Très populaire, oui. Mais je vous dis, toutes les Basques qui ont migré, les navigateurs.
Bien sûr, par l'histoire.
Évidemment, l'histoire, eh bien, c'est pour ça que vous commencez les États-Unis parce qu'il y a eu une colonie basque, mais après vous avez le Mexique, le Chili, mais c'est fou. Le Chili, l'Uruguay, l'Argentine, le Costa Rica, le Guatemala. Le Venezuela, tous ces pays-là jouent à la pelote. Je reviens d'un championnat du monde des moins de 22 ans, où j'étais au mois de septembre à Valdepeñas, en Espagne. On était 14 nations, des moins de 22 ans, où on pratique des spécialités. Mais tous ces pays, je vous dis que pratiquent la pelotoise, je suis bien content d'ailleurs. Quand vous pensez qu'à Buenos Aires, un trinquet comme le nôtre, vous en avez 100, 120. Dans Buenos Aires. Et chaque fois, un trinquet, qui dit trinquet, dit club privé. Avec les socios. Et puis, comme je vous disais, entre eux, ils sont.
Bien sûr. Alors, pourquoi vous n'êtes pas sport olympique?
Parce que, je vais vous expliquer, c'est tout simple, c'est l'explication qu'on m'a donnée. Pour être sport olympique, il faut au moins que vous ayez 30 nations, je crois, d'après ce qu'on m'a dit.
Il en manque encore un peu.
Donc, nous, on a 14 ou 15 nations. Bah, c'est tout simple.
Il y a des continents où c'est complètement absent, quoi, comme l'Asie ou tout ça, quoi.
Attendez, pour la première fois à Valdepeñas, où j'étais en tant que chef de délégation, c'est l'Inde est venue. L'Inde est venue, c'est la première fois qu'il est venu avec deux joueurs pour une spécialité qui est bien particulière, c'est le front tennis. Ça se joue avec une raquette de tennis sur un mur à gauche. Ils sont venus voir et je pense qu'on en parlera, on en reparlera.
D'accord.
D'autant qu'ils sont très forts à la raquette. Hein. Il faut voir le badminton, par exemple.
Agilité, souple.
Le jeu de la raquette, ils savent. Hein. Ils savent faire. Hein.
C'est un sport que cher.
Non.
Pour un jeune, pour quelqu'un qui débuterait.
Comme vous disiez tout à l'heure, quand on aura le Chistera, ce fameux panier en osier, lui, il coûte cher. À l'achat, il faut 300 euros quand même. Et les balles par elles-mêmes, attendez, je veux dire en francs, ça vaut dans les 700 à 800 francs.
Ah oui, quand même.
La balle. Alors, ça, c'est pas donné. Cette spécialité-là. Mais si vous jouez à la pala gomme creuse, la balle, elle vaut, je sais pas moi, elle doit valoir 2 euros. Et puis la raquette en bois doit valoir, je sais pas moi, je sais pas, 8 euros.
Mais ça, ouais. ça se trouve pas partout quand même.
Alors, hein. Il y a des explications quand même, ouais. parce que le chistera, le panier, c'est fabriqué à la main. Hein. On peut pas industrialiser ça.
D'accord.
Oui. Et il n'y a pas beaucoup de fabricants en plus.
D'accord, voilà. Sympa, ça.
Non, dans l'ensemble, c'est pas très cher. Puis vous avez la licence, parce que nous, tous les jeunes qui jouent chez nous, ont une licence obligatoire, parce que avec la licence ils sont assurés. Et ça, nous y tenons, parce que un coup le pelote.
Justement, on se blesse beaucoup dans ce sport.
Non.
Il y a très peu de.
Bah, vous savez, de toute façon, c'est un sport d'adresse. Je rappelle quand même que la pelote, c'est un sport d'adresse. Ça arrive. Que vous preniez sur le corps, ça peut arriver. Bon, mais sur la figure.
Non, mais même le reste, une déchirure, une tendinite.
Oh, bah, comme tous les sports.
Ce sont des gens quand même hyper sollicités, quoi.
Comme tous les sports. Ouais, c'est pour ça que là aussi, vous avez besoin d'un entraînement physique, une condition physique pour jouer. Hein. Si là, vous n'arrivez pas, là, la fleur au fusil, comme vous avez des démarrages, c'est un sport, comment dirais-je, assez violent. Vous savez, les déchirures ou les claquages, c'est vite fait. Hein.
Il y a des démarrages très vif, il y a des stops très très rapidement aussi, il y a des changements de pied, c'est très physique.
Non, c'est très physique, oui.
Et une carrière peut durer comme ça longtemps? Bon, après c'est comme le tennis, on fait de la compétition, puis après on se met sur le loisir, quoi.
Pour jouer à haut niveau, vous pouvez jouer jusqu'à 35, exceptionnellement, il y en a qui jouent à 39, 40 ans, mais c'est rare. Jusqu'à 35 ans, vous pouvez jouer si vous êtes sérieux, si vous entraînez, il n'y a aucun problème. L'avantage, quand vous avez 4 murs, c'est un petit peu quand vous regardez les gars jouent au squash. Il y a 4 murs, ils connaissent tous les effets, la manière dont est partie la balle, ils savent où ils vont la récupérer. Donc il y a un minimum d'effort quand on connaît. Mais généralement, de haut niveau, c'est jusqu'à 30 ans.
Les jeunes, ensuite, ils sont très réceptifs quand les jeunes des écoles, là, vous travaillez beaucoup pour les écoles, hein, c'est
surtout, une des priorités. Pour nous, c'est l'avenir.
Bien sûr. Et ils sont très réceptifs à ce sport, ça leur plaît ou...
Oui. Oui, je veux dire oui et non.
Ouais.
Deux aspects. Quand vous leur faites goûter la première fois, ils sont tous emballés.
Ouais.
Bon, ils reviennent plusieurs fois, c'est très bien. Mais c'est quand même difficile. Là, je parle de chez moi, du Pays Basque. Là. Je me rends compte, par rapport à avant, maintenant, les jeunes sont attirés vers les sports de masse, de groupe. Ils vont tous, il y a une équipe de rugby, ils vont au rugby ou au football. Et évidemment, ils retrouvent leurs copains. Là. C'est plus facile d'être tous ensemble. Là, vous êtes seul ou à deux, hein. Et puis c'est ça fait mal. C'est peut-être plus facile. Enfin, ils préfèrent être avec des copains. Je pense qu'à cet âge-là, il n'y a pas trop de troisième mi-temps, mais ils préfèrent être avec les copains en groupe plutôt. C'est pour ça que alors pour les fidéliser, on essaye de faire quelques efforts supplémentaires.
Oui, mais de notre côté, le moindre mur. Même si c'est pas un fronton, le moindre mur est utilisé.
Même ceux qui ne connaissent pas la pelote basque, dans les écoles vous avez un mur avec une balle de tennis.
Bien sûr.
Puis à l'époque il y avait le jokari. C'est l'origine, enfin pas l'origine, mais c'est tiré de la pelote basque.
Ah ben oui, parce que même la forme de la raquette. Hein.
Mais c'est une pala.
C'est une pala, hein. C'est une pala fine.
Mais jokari, joué, quoi. Ouais. C'est ça que ça veut dire en basque. Alors, c'est l'élastique qui remplace le fronton, parce que ça vous renvoie la balle. Mais ça, c'est exactement pareil.
J'ai une question, quand même, qui me turlupine depuis quelque temps. Il y a une énorme relation entre le squash. Le squash n'est pas inspiré de la pelote basque?
Non.
Du tout?
Non, je crois pas. Je peux pas dire du tout.
C'est vrai qu'il y a des points communs.
Mais
hein,
non.
Non.
Mais peut-être, je sais pas. Mais c'est toujours anglais, ça. Hein.
Ils ont copié les
basques. Non. Mais bon, pourquoi pas? Oui, j'en sais rien. Vous savez. Donc je ne peux pas vous répondre à votre question, mais si vous regardez bien, je suis allé l'autre jour au jeu de pommes.
Bruy-Lauriston.
Et l'aire de jeu est exactement la même que la nôtre. Alors on se demande si c'est pas l'ancêtre de la pelote. Le jeu de pommes. Personne n'a démontré, mais ni prouvé le contraire. Mais ça, même aire de jeu, la seule différence, c'est qu'on joue avec une raquette, comme une raquette de tennis. Pas tout à fait la même forme, mais vous avez la planche à gauche, vous avez le trou, le chilo, ce qu'on appelle, exactement pareil. Voilà.
Ce sont les des pelotaris, hein, ceux qui pratiquent la pelote basse.
La pelote, c'est des pelotaris.
Oui. Ah, c'est ça, hein, on les appelle. Hein. Vous avez beaucoup de femmes. Ce sport, il y a des équipes féminines qui commencent à se monter.
Oui. Mais non, il y a une compétition internationale. Oui, oui. Hein. Généralement, au championnat du monde, vous avez toujours les féminines sont invitées. Il y a un championnat du monde féminine, mais uniquement à une seule spécialité.
D'accord.
C'est la baline, c'est-à-dire la gomme creuse. Maintenant, les féminines sont là. D'ailleurs, au Mexique, les filles, les françaises sont médailles d'or.
Mmh. Alors donc, ouais.
Et d'ailleurs, il y a un championnat de France très 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 relevé. Hein. Ça commence chez les Benjamins, chez les Benjamines, et ça va jusqu'aux vétérantes. Hein.
Tout à fait. C'est vous avez les féminines. Vous allez aux Pays-Bas, vous allez voir les vétérans jouer à pelote.
Ouais,
je voudrais tout à l'heure rappeler juste une chose. C'est qu'à l'époque, le pays organisateur pour les Jeux Olympiques avait le droit de choisir un sport de démonstration.
Ouais.
Donc, on a été sport de démonstration en 68 à Mexico.
Ah, d'accord.
Au Mexique.
D'accord.
Nous avons été sport de démonstration en 92 à Barcelone.
Oui.
Et depuis, c'est fini. Le pays qui organise n'a plus de sport de démonstration. Ça se fait plus.
Mm-hmm.
Ce qui fait que les deux fois nous avons été aux Jeux Olympiques, c'était à Mexique en 68 et à Barcelone en 92. Mais Barcelone, cette année, les champions du monde des moins de 22 ans de cette apunta ont eu lieu à Barcelone, parce qu'à Barcelone, toutes les infrastructures sont là.
Mmh.
Il faut s'en servir. Ils ont construit pour le 92, mais il faut s'en servir.
Et justement, si la France a vu les Jeux en 2012, vous auriez été sollicité, vous. Hein,
tout à fait. Il était prévu des remaniements les tribunes d'Auteuil, où il était prévu, peut-être, on avait de grandes chances de construire un rail à l'ail, mais en association avec l'escrime. Parce que après tout, quand vous voyez l'air de jeu d'un Rayalai, c'est un ciment particulier. Il suffit de poser les podiums dessus avec les raccordements électriques et vous pouvez faire l'escrime. L'avantage, c'est que le côté tribune spectateur était commun. Parce que l'escrime n'a pas malheureusement de salle assez grande. Ils vont toujours, je crois, couvertin, si mes souvenirs sont bons. Et alors là, on aurait pu faire double emploi. Et puis il y a que bon tout le reste, hein, Roland Garros, bon, mais malheureusement ça s'est pas fait, donc nous n'aurons pas de rail à l'ail à Paris.
On se contentera de l'Open chaque année, quoi.
Il n'y a pas que l'Open.
Oui.
Vous avez l'Open le 7, 8 et 9 février, donc la semaine prochaine. Ensuite, vous avez au mois de juin, le troisième week-end de juin, la fête basque, avec des sports basques.
Il doit y avoir de l'ambiance, là.
Et beaucoup voilà, j'allais vous dire, avec un repas champêtre.
C'est très agréable.
Avec des bandas et beaucoup de chants, bien sûr. Ouais. Et puis après, en septembre, ce que je disais tout à l'heure, vous avez la finale, le 16 septembre, la finale des professionnels de Chitera. Qui va se faire le 16 septembre sur le fronton de Paris. Et après, au mois de début novembre, vous avez le master de main nue avec les meilleurs joueurs professionnels du moment. Parce que à la Fédération Française de Pelote Basque, nous avons deux ligues, nous avons une ligue professionnelle.
Ah, d'accord.
Où nous avons les joueurs de Chistera, c'est à Punta en particulier, et les joueurs de main nue. Seulement quand on parle professionnel, c'est 20 joueurs de main nue. Hein.
Donc il y a des joueurs qui ont quand même à vivre un peu de ce sport.
Non. Je l'ai dit tout à l'heure, ils ne vivaient de ce sport-là.
Ouais.
Ils travaillent tous.
Ah, d'accord.
Alors qu'aux États-Unis, ils vivent de ce sport.
Les sponsors sont importants dans votre sport ? Il y en a ?
Écoutez, il en faut. Il y en a.
Et heureusement. Assez régionaux, assez locaux.
Voilà, assez régionaux, oui.
C'est surtout
régional.
Il y en a un, notamment dans le fromage.
Il y en a deux dans le fromage. Hein.
Il y a deux dans le fromage.
Celui qui sponsorise la Fédération Française de Pelote Basque, c'est le fromage de brebis et torqui.
D'accord. Voilà. Ah ouais.
Je voulais pas le citer, mais
c'est ciblé. Bon,
je vais vous dire, je l'ai cité parce que je suis là aussi au titre de vice-président de la Fédération Française.
Ouais.
Donc je le dis.
Très bien. Allez, on marque un petit break musical et puis ensuite, on va encore continuer à découvrir ce sport qui est donc la pelote basque. Alors, monsieur Goyonetch, la région Île-de-France, c'est vous aide.
Alors, comme je disais tout à l'heure, la région Île-de-France, c'est 18 clubs. Nous avons à peu près 8 écoles de pelote, où nous prenons les gamins à partir de poussins. Hein. En ce qui me concerne, moi, je pense qu'avant 9 ans, ça ne vaut pas la peine. À partir de 9 ans, nous les prenons. C'est la région Île-de-France, c'est la Ligue Île-de-France, c'est un millier de licenciés. On doit avoir, je pense, dans les 1500 pratiquants. Parce que je sais pas, y a des frontons un peu partout. Là, dernièrement, le dernier en date, c'est Chaville.
Ah d'accord, Chaville, voilà. Ouais, qui est pas très loin d'ici, donc.
Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, on essaiera d'y faire cette année un championnat là-bas à Chaville, pour ne serait-ce que pour l'animer, pour intéresser les jeunes, peut-être monter une école de pilote. Ensuite, quoi vous dire l'autre, la Ligue Île-de-France, son siège c'est 8 quai Saint-Exupéry.
Et alors ça pose le problème de monter des frontons, il faut le faire à côté d'infrastructures sportives ou alors on peut le faire séparément de sites et d'endroits sportifs, parce que souvent les frontons c'est au sein d'un complexe sportif
où généralement ça passe comme ça, mais quand même je me mets à la place de monsieur le maire. Moi je veux bien construire, mais si les concitoyens peuvent lui dire attendez, vous avez construit un fronton, mais pourquoi faire?
Il n'y avait pas, à une certaine époque, il n'y avait pas un projet de mettre des frontons dans les cités, justement. Il me semble.
Je suis le premier à le défendre.
Hein? Ah bon.
Mais je vous dis encore, après, c'est un problème de politique.
Ouais, c'est clair.
Oui, parce que, bon, si vous construisez un fronton et qu'il y a beaucoup d'animation, parfait, très bien, bravo. Parce que ça appelle aussi à une école de pelote. Donc on intéresse les jeunes, bon, ça, mais si c'est pour le laisser dans un coin, pas s'en servir, c'est pas la peine. Alors, moi je suis le premier à vouloir, si avec moi il y aurait des frontons partout, parce qu'après tout, qu'est-ce que c'est monter un mur, hein?
C'est un mur, hein.
C'est un mur, mais oui, mais, oui, mais dans la région, à Paris, la région Île-de-France, un mur, ça prend un peu de place.
On en a un, ici, hein. On a un mini fronton, ici, il est complètement tagué, vous le verrez vous sortirez du studio, c'est il vrai, est complètement c'est... tagué, ouais. D'ailleurs très joliment tagué. À telle enseigne que la municipalité a tenu à le conserver comme ça. Et vous allez voir, mais c'est un mini fronton.
Je ne savais pas. Mais vous ne l'avez pas montré.
La ville de Paris aussi, naturellement.
Alors, nous avons, bien sûr, il faut quand même savoir que tout le site qu'on appelle le site Chiquet de Récambeau, d'ailleurs, sur les quais de Seine, quai Saint-Exupéry, toutes ces installations appartiennent à la ville de Paris. Au même titre que Roland Garros, au même titre que Jean Bouin, Parc des Princes, au même titre. Nous venons de renouveler la concession pour 10 ans. Voilà. Et nous, donc, la ville de Paris est bien sûr partenaire. Et nous avons en partenariat aussi la région Île-de-France. Et puis, nous avons aussi la Société Générale. En particulier.
C'est la banque du rugby aussi, donc vous voyez, c'est...
Oui, mais j'ai copié un petit peu, sur le rugby.
Ouais, c'est pour ça, ouais.
Voilà. Mais il manque plus que l'EDF, et puis ça serait très bien.
Mais, et le GAN.
Non, parce que la Fédération française a un contrat, un partenariat avec un assureur des Landes.
Ah oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Hors antenne. Ouais. Et donc, c'est déjà pas mal, ce qui nous permet... Justement, d'aider les écoles de pelote. On leur achète le matériel, mais pour leurs écoles, pour que les jeunes n'aient... D'ailleurs, les parents sont des fois surpris. Combien ça coûte? Ben, ça coûte le prix de la licence, tout simplement. Et les instruments, fournis par l'école de pelote. Donc, ça, nous les aidons de ce côté-là.
C'est fourni par les clubs, en grosse partie, quoi.
Les clubs, nous aidons les clubs.
Mais c'est bon.
C'est logique. J'ai oublié tout à l'heure un club comme Châtillon. Oui. Châtillon, un très joli club, c'est ce qu'on appelle le Petit Gand. Je rappelle quand même qu'ils ont été champions de France en National B de Petit Gand et champions de France en rebond National B. Et ils jouent en National A, c'est-à-dire la première division, maintenant. Et voilà encore un club qui se distingue, qui a des résultats.
Ça ne me surprend pas beaucoup parce que Châtillon a eu une équipe de rugby à 13 pendant des années.
Tout à fait, je m'en souviens, Châtillon 13.
Ouais, Châtillon 13.
Il y a quand même 45 ans que je suis à Paris. Hein.
Ouais,
je connais un peu.
Donc vos compétitions, c'est par équipe et individuelle. Hein,
par équipe et individuelle, mais généralement, l'individuel, vous le retrouvez quand même nu.
D'accord.
Autrement, vous jouez pas en individuel. Vous jouez unique 2 contre 2, toujours, ou 3 contre 3. En fronton, place libre, à Chicera, c'est 3 contre 3. En circuit fermé, dans un rail à l'ail, 2 contre 2. Voilà. Et de temps en temps, vous avez des 1 contre 1, des tête à tête, qu'on appelle des quignelas. Mais ça, c'est les professionnels de Punta. Ça.
Avec des saisons qui durent.
Mais vous avez la saison d'hiver, saison d'été. Hein. Là, on a commencé déjà les championnats d'hiver. Ils ont commencé déjà en octobre. Ils vont se terminer au printemps, là. Et en suivant, ça va être des championnats.
Donc ça veut dire qu'on peut être sollicité toute l'année, quoi.
Toute l'année. Suivant votre spécialité, toute l'année, oui. Absolument, mais vous en avez qui pratiquent deux spécialités. Hein.
Oui, bien sûr.
Il ne faut pas croire. Nous, tout ce que l'on cherche ici en Île-de-France, c'est d'intéresser le plus jeune possible. Mm-hmm. Parce que c'est, les gens, c'est l'avenir. Hein.
Bien sûr.
Tout à l'heure, on parlait de rugby, c'est exactement pareil. Ici, vous avez les écoles de rugby. Hein. C'est la pépinière. Hein.
Bien sûr. Et il y a des efforts de la fédération, en fait, au niveau de régions comme l'Est ou comme la Bretagne, parce que le Paris est audacieux. Non,
par contre, il y a une ligue dans le Nord.
Oui.
Il y a une ligue du Nord. Mais il faut savoir qu'en Belgique, on a une ligue aussi. Hein. Pas française, bien sûr, mais belge. Qui vont chaque année vont au championnat du monde. Hein. Ils ont des joueurs de main nue, ils viennent s'entraîner à Paris parce qu'ils n'ont pas d'installation. Hein. Mm-hmm. Mais bon, on a une Ligue du Nord quand même. Hein.
Ils viennent s'entraîner à Paris.
À Paris, oui.
Ouais.
Avant Mexico, ils sont venus s'entraîner sur notre fronton. Hein. Trinquet, oui. Mm-hmm. Ils n'ont pas d'installation, ça coûte cher une installation. Ouais. Il faut savoir qu'un trinquet comme nous avons eu à Paris, on construit en 88, ça, à l'époque, ça a coûté 1 200 000 francs. Mm-hmm. Mais sans payer le terrain, c'est à la ville de Paris. Mm-hmm. Ça me plaisait, alors. C'est très très cher.
Très bien, pour finir, il y a un site internet pour ceux qui voudraient s'inscrire à la pelote basque ce matin. Il y a un site internet.
Alors déjà, vous avez le site internet laligue-île-de-France-pelote basque. Mm-hmm. Et puis vous avez une adresse email.
Ouais.
C'est lidfpb@free.fr. Et si vous voulez, pour les réservations, pour les renseignements, vous appelez le 06 31 63 34 37.
Très bien. Monsieur Goyonec, merci.
Moi, je vous remercie aussi de m'avoir reçu.
À très bientôt.
À très bientôt.
Salut Jean-Michel.
Salut.
À la semaine prochaine pour France-Irlande.
Absolument. Allez.
Au revoir et bientôt. Merci.
Revoir, merci à tous et à tous. On vous laisse avec Radio Village maintenant et notre ami Lionel. Salut.
Bon dimanche, RVE, il est 11h.